Bruno Fisch, bonjour. Donc bonjour. Vous êtes le réalisateur de Maestro, le film qui sort le 7 décembre. On a eu l'occasion de se rencontrer en 2017 déjà, l'un dans l'autre, avec Louise Bourgoin et Stéphane De Groot. Vous prenez beaucoup de temps. Est-ce qui est le plus dur, c'est la création, c'est le choix du thème, l'écriture, la production?
C'est un peu le tout, mais en fait, moi, j'ai envie de vous dire que ce qui prend plus de temps, c'est le désir. C'est d'avoir un vrai, vrai désir pour faire un film. Ça demande une énergie de dingue, et moi, j'ai besoin d'être habité par le film pour le faire. Là, dans Maestro, c'est marrant parce que ça fait, il y a eu un an d'écriture sur un scénario, mais les deux personnages d'Yvan et Pierre c'était pas encore des musiciens en fait. J'ai écrit une première version où ils étaient professeurs d'histoire tous les deux, très haut niveau, et ça reprenait un peu d'ailleurs la trame de Footnote dont je me suis inspiré. Et puis ça avançait pas trop parce que tout d'un coup j'ai déjeuné avec une chanteuse lyrique qui m'a dit, c'est l'histoire en fait, cette compétition entre mon beau-père et mon père, mon beau-père et mon mari, pardon, et les deux sont chefs d'orchestre, et le beau-père était invité à jouer à Beyrouth, vous rêvez d'être invité à jouer à Beyrouth, et c'est le mari qui a été invité. Et je suis sorti de ce déjeuner, et j'ai appelé le producteur, et je lui ai dit, je vais tout réécrire, et là, j'ai eu un vrai désir de ce film. Et là, ça a été vite, en fait.
Alors, on peut dire qu'à la genèse du projet, il y a une sorte d'alignement idéal des planètes avec votre producteur Philippe Rousselet, avec qui vous aviez d'ailleurs fait votre premier film, Bardi, puisque c'est lui qui avait quand même les droits de Footnote dont on parlait, le film de Joseph Sédar.
Le film de Joseph Sédar, parce que avec Philippe, quand on a fini l'un dans l'autre, j'avais envie de faire un film plus profond, plus personnel, et je voulais raconter une histoire père-fils, et c'est vrai qu'il avait optionné des droits de remake de ce film de Joseph Sédar qui s'appelle Footnote, et il m'a dit, c'est con, j'ai pas gardé les droits et je les ai revendus, mais écoute, regarde quand même le film. Et j'ai vu le film et j'ai tout de suite, moi, j'y ai tout, alors c'était pas l'idée du tout de faire un remake, mais l'idée de base, le quiproquo de base, j'ai tout de suite vu la possibilité de raconter l'histoire que j'avais envie de raconter moi, qui est assez loin, d'ailleurs assez éloigné du film de Joseph, hein, qui est un très bon film. Ça s'est passé comme ça en fait. Et il m'a dit, je vais rappeler.
Je rachète.
Je vais rebroyer. C'était une option qu'il avait prise, mais il a repris une option.
Ouais. Alors, co-scénariste, Yael Longman et Clément Penny. Yael, c'est quoi? Il fait partie de l'écurie Attal, non?
Non, alors Yael, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. En fait, Yael, je la connaissais un peu aussi, mais j'ai commencé vraiment le film avec Clément Penny, qui est un très jeune scénariste, avec qui je travaille d'ailleurs maintenant sur un prochain film. Il prend du galon à chaque fois. J'avais rencontré sur Je n'ai rien oublié, sur l'un dans l'autre. À la fin, il m'avait aidé parce que je réécrivais encore alors que j'étais déjà en préparation, je l'ai connu comme ça. Et puis, sur Maestro, on a écrit cette première version ensemble. Après, j'ai écrit tout seul pendant un long moment. J'ai réécrit complètement le scénario seul. Et puis, à la fin, alors c'est vrai que quand Yvan est arrivé sur le film, c'est normal d'ailleurs, il voulait s'approprier aussi un peu le rôle. Et c'est vrai qu'on connaissait tous les deux Yael, mais ça a été une passe en fait. Yael, c'est elle qui avait écrit le brio surtout. Elle avait écrit le brio. Après, Yvan l'a engagée sur Mon chien stupide. Et sur Les choses humaines, parce que Yael était très amie aussi avec Karine Thuil, qui avait écrit le bouquin Les choses humaines. Mais bon, moi, c'est pas pareil. Elle a donné un coup de main, quoi. Ça a été plus une espèce de dernière passe, quoi.
Alors, Lascala, c'est le Graal pour le chef d'orchestre. C'était inévitable, ça a été facile à obtenir une autorisation. Il y avait d'autres scènes qui étaient envisagées
à La Scala,
ouais, plutôt que La Scala. Ça n'avait pas été.
La Scala, c'est le Graal.
Ouais.
C'est-à-dire que pour des chefs d'orchestre, comme pour beaucoup de gens, même pour des cantateurs, des chanteurs ou des cantatrices, le Graal, c'est quand même d'aller à La Scala. Donc, ça s'est imposé comme ça. Bon, après, c'est un nom aussi, on aurait pu se dire... Mais c'est vrai que le Graal, ça peut pas être l'Opéra de Vienne. Ça pourrait être l'Opéra de Paris. Ça pourrait être... Mais le Graal, c'est quand même La Scala de Milan. Moi, c'est ce qui m'a toujours fait rêver, c'est La Scala de Milan.
Alors, Pierre Arditi joue François Dumas, le fameux chef d'orchestre. Pas vraiment sympathique, pas vraiment souriant, pas vraiment séducteur, quoique. Il a accepté de casser un petit peu son image.
Ah ouais,
facilement.
Oui, oui. Hein. Ben, non, mais Pierre, c'est un grand acteur. Et puis Pierre, il a accepté de casser son image d'homme très, très sympathique. Pour jouer cette relation père-fils, c'est un vrai comédien, Pierre. C'est-à-dire qu'il peut être un peu comme ça, quand il fait pour la télé, bon, je veux pas... où il fait des trucs, où il est sympa, où il est lui-même, en fait, et tout ça. Mais enfin, bon, c'est quand même l'acteur d'Alain René, c'est quand même... bon. Non, ce qui lui plaisait, c'est cette relation père-fils qui obligeait... qui allait l'obliger à se montrer antipathique, parce que le père accepte pas d'être tué par le fils, donc il est jaloux de son fils. Mais je crois que comme c'est un grand acteur, il a ce courage là de jouer un mec pas sympa, quoi, comme un acteur peut accepter de jouer Hitler, hein. Bon, là c'est pas Hitler, mais
Miu Miu, pour eux, c'est le vieux couple, quand même. Bon, en 85, ils jouaient déjà le couple. Ils rentrent dans leurs pantoufles, quoi, quand ils se...
Ouais, ils rentrent dans leurs pantoufles, et en même temps... non, mais c'était très touchant, d'ailleurs. Il y a une scène que j'aime beaucoup, moi, dans le film, qui est une scène où Pierre demande sa femme en mariage.
Ouais, au restaurant.
Ouais. Et c'est vrai que c'était beau, parce que là, on voit 20 ans de complicité, quoi, derrière.
Tout passe.
Ouais, tout passe. Tout passe.
Alors, un autre comédien qui m'a bluffé, comme d'habitude, c'est Nils Otnin-Girard. Alors, la question que je voulais poser, j'ai eu l'occasion de le voir dans La Nuit des Chasseurs, un court-métrage de Pascal Arbillot, pour Talon Adami à Cannes. Qui a été piqué qui ?
Mais enfin, c'est Pascal qui m'a piqué Nils. Non, c'est moi qui ai trouvé Nils en premier, dis donc. D'ailleurs, le film de Pascal, elle l'a tourné après, hein. Mais non, moi j'avais vu Nils Otnin-Girard dans un tout petit film, je peux même pas vous dire le nom du film, mais il m'avait impressionné par sa singularité. J'ai jamais vu, et c'est quand même ça, c'est un vrai critère pour choisir un acteur, c'est de voir. Moi, j'aime bien découvrir une vraie nature, quoi. Les grands acteurs, c'est pas des acteurs qui savent bien jouer, forcément. Ils savent tous très bien jouer dans mon film, mais ce qui est important, c'est la personnalité qu'il y a derrière. C'est Dominique Besnéard qui m'a appris ça. Quand j'étais tout môme, j'avais 20 ans, je dis, mais c'est quoi ton critère? Parce que j'étais impressionné par le fait qu'il découvre des gens comme ça, quoi.
Sortie des écoles.
Ouais, non, mais à la sortie des écoles, et pas que, mais même dans la rue. Mais il me disait, moi, ce qui me guide, c'est l'âme des gens que je rencontre. Et ça m'est resté, et je l'ai gardé comme devise. Finalement, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a dans le cœur, quoi. Et Nils Otnin-Girard, quand je l'ai vu dans ce petit truc à la télé, je trouvais qu'il était singulier, qu'il ne ressemblait à personne, quoi. Et quand j'ai lancé le casting pour le rôle du fils dans mon film, le fils d'Ivan Attal et de Pascal Arbillot, d'ailleurs, mon directeur de casting m'a présenté des acteurs, dont un qui ressemblait beaucoup à Pascal, un autre qui ressemblait beaucoup à Ivan, et qui étaient des très bons acteurs, hein. Mais je gardais en tête Nils, à qui j'ai pas fait passer le casting. J'ai fait une lecture avec lui dans mon bureau et je l'ai engagé comme ça. Et il est génial parce que dans le film, c'est un spectacle de voir ce gamin de 17 ans qui est un peu seul en fait, qui est dans sa bulle. C'est le petit prince de Saint-Ex, quoi. Et ce qui était mignon, c'est que je l'ai montré à Pascal et à Yvan en leur disant, voilà, c'est pas quelqu'un qui vous ressemble physiquement, mais moi c'est mon préféré. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'avais envie qu'il l'adopte aussi. Et ils étaient d'accord avec moi, ils m'ont tout de suite dit, bah non, bah c'est ton choix, c'est celui-là, c'est, il n'y a rien à dire, parce que c'est vrai qu'il est génial, ce gosse. Et Pascal, quand elle a fait les talents à Dami, elle a tout de suite voulu l'avoir. Ouais, ouais. Mais il est super, hein, il a une personnalité de dingue. Hein. Ouais, il est marrant.
Il ira loin comme le petit là.
Ah ouais, il ira loin. Ouais.
Alors, Virginie, la nouvelle compagne de Denis, c'est Caroline Anglade. Alors, je voulais vous demander pourquoi vous l'avez affublée d'une difficulté supplémentaire avec sa surdité.
Parce que j'avais pas envie. Le rôle des femmes dans ce film est très important. Je voulais pas que Pascal Arbillot soit la femme d'eux ou l'ex-femme d'eux. Et de même que Caroline, je voulais pas que ce soit la jeune maîtresse. Qui aurait été un peu arriviste ou un peu ça, et le fait de montrer que cette jeune femme est malentendante, ça veut dire que déjà elle a une personnalité de dingue et qu'elle a bossé comme une dingue pour être violoniste déjà. Donc c'était pas quelqu'un d'anodin. Mais il y avait autre chose qui servait aussi, c'est vrai, parce que on dit toujours les rôles, enfin un rôle secondaire, mais c'est pas un rôle si secondaire que ça. Hein. Il faut que ça soit quand même en rapport avec le rôle principal, qui est clairement quand même celui d'Yvan. Et ça servait son personnage dans le sens où on montrait que cet homme, qui est quand même fragile à 50 ans, c'est plus facile de se mettre avec quelqu'un dont on se dit qu'elle va avoir besoin de vous. Tu vois ce que vous voyez, ce que je veux dire, que une jolie pépée comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est rassurant d'être avec quelqu'un dont on se dit elle a besoin de moi, donc forcément elle va m'aimer. C'est complètement con, mais c'est quand même très masculin. Et on peut être comme ça, c'est vrai. C'est plus facile que d'aller se mettre avec, je sais pas moi, un top modèle international ou un prix Nobel de chimie, quoi. Ça fait plus peur. Donc là, il a ça. Et alors, de bol, après elle lui rentre dans les plumes et elle lui dit mais moi j'ai pas besoin de toi, j'en ai rien à foutre et tout ça. Mais je trouve que leur relation du coup elle est beaucoup plus riche parce que on prend le spectateur un peu à rebours, c'est-à-dire qu'au début il se dit ah bah c'est la petite nana, la jolie, le mec a une jeune maîtresse et tout, et en fait elle a un caractère extrêmement trempé de par son handicap original, quoi.
Alors je voudrais aussi parler de Caterina Murino, qu'on aurait pu croire finalement étant une violoniste, mais qui finalement est une actrice quand même. Hein.
Ah bah c'est une actrice, bien sûr.
Et donc la justesse de son jeu bluffe aussi le spectateur quand même.
Ouais, et puis Caterina Murino, c'est alors elle n'a pas un gros rôle dans le film, mais elle joue. Elle est très belle.
Aussi, hein.
Ouais, bien sûr, parce qu'elle est très belle. Oui, elle est plutôt souvent dans des comédies, des choses comme ça. Ici, elle joue le rôle d'une très grande violoniste, d'un premier violon qui va être engagé dans l'orchestre de la Scala. Donc c'est pas un petit boulot. Hein. Le premier violon, c'est quand même le deuxième poste après le chef d'orchestre, hein, dans un orchestre comme ça. Hein. Et c'est vrai que Caterina, en même temps, sa beauté italienne, c'est déjà l'Italie, quoi. Donc elle est magnifique, elle est hiératique. On dirait la Callas un peu. Ouais.
Alors, est-ce que vous ou votre producteur, donc Philippe Rousset, vous n'avez pas eu peur de faire un film sur cette musique classique par rapport à fatalement les chiffres, la rentabilité, les spectateurs c'est un défi quand même.
Oui, c'est un défi. En même temps, moi je vais vous dire, hein, j'ai l'impression, bon, j'espère que le film va marcher. Le film est extrêmement bien reçu. On a fait beaucoup de festivals, on le montre beaucoup, et c'est vrai que les gens sont embarqués en fait. Et moi, j'ai l'impression quand même, et j'écoute aussi mon distributeur qui croit beaucoup au film, on s'aperçoit quand même que les gens, ils sont pas si cons que ça, et qu'ils ont envie... alors, évidemment, sur le papier, c'est moins facile qu'une grosse comédie et tout ça, mais à l'arrivée, on voit que le film, j'espère, on touche du bois, que le film va marcher, mais on voit que les gens sont embarqués. Et cette musique, alors, elle est classique, mais le film, il n'est pas gris. C'est de la musique classique magnifique, quoi. C'est des airs d'opéra, c'est très fort. C'est comme, je me rappelle, il y avait un film de Jean-Jacques Benex qui s'appelait Diva. Il y avait cette chanteuse, la Wally, qui a fait le succès du film.
Tout à fait.
Et là, c'est pareil. Les gens vont entendre des musiques qui sont dingues. L'Ave Maria de Caccini, qui est une splendeur et qui donne des frissons, quoi. Et je vois même des gens très jeunes qui sont dans les salles de projection, dans les festivals, dans la tournée. Ils sont, ils attendent à la fin de la projection pour me dire combien ça les a touchés, quoi. Je crois que ça touche au cœur, quand même. Bon, puis après, il n'y a pas que la musique dans ce film. La musique, c'est très important, mais il y a Yvan Attal qui est quand même magnifique. Pierre, il forme un duo de dingue. Donc le film a un petit côté spectaculaire pour ça. Et puis je crois que ce qui est important, c'est que les gens c'est que le film touche. Le film, il est, en fait, c'est une symphonie de sentiments. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais c'est un concerto de sentiments humains quand même. L'émotion est un peu là, à fleur de peau.
Bruno, un grand merci. On rappelle, Maestro, 7 décembre.
Ah oui, dans toutes les bonnes salles.
Merci.
Merci à vous.